Chapitre 22. Gare aux parapluies bulgares. Espionnage et contre-espionnage, réseaux dormants, agents infiltrés, liquidations d'opposants, l'univers de la guerre froide ne s'est pas soudainement évaporé en 1972 à la faveur de l'invitation de Richard Nixon et de Henry Kissinger au Kremlin. Loin de là. Presque jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique en 1991, un affrontement souterrain mais violent n'a cessé d'opposer les deux superpuissances issues de la Seconde Guerre mondiale. Enjolivés à l'envi par les aventures d'OSS 117 et de James Bond, ce conflit de l'ombre aura fait d'innombrables victimes, reconnues ou non, au nombre des plus fameuses, le dissident bulgare Gueorgui Markov. Dans la nuit du 7 au 8 septembre 1978, dans son appartement londonien, cet intellectuel se réveille nauséeux et fiévreux. Gueorgui se masse la jambe. La veille, dans la soirée, il a été piqué peut-être par un insecte. S'est formé sous sa peau un renflement rougeâtre qui prend dans la matinée du vendredi 8 un aspect des plus inquiétants. Sa femme le conduit à l'hôpital le plus proche, en lisière de Hyde Park. Or, les médecins, qui craignent la septicémie, se montrent perplexes. Pressé de questions par son entourage, Gueorgui Markov s'efforce de se rappeler les circonstances de la piqûre. Il pouvait être 18h30 le jeudi 7 septembre, lorsqu'attendant son bus au pont de Waterloo pour se rendre aux studios internationaux de la BBC, il a ressenti à la cuisse une brûlure aiguë. Au même moment, le Bulgare a entendu un homme à l'accent étranger s'excuser d'avoir laissé choir son parapluie. Puis, il l'a vu ramasser ce grand objet noir et disparaître. De là à penser que l'embout du parapluie ait pu être empoisonné, il est vrai qu'à deux reprises déjà, Markov a fait l'objet d'attaques manquées de la part des services secrets bulgares, la redoutable DS, Darzavna Sigurnost, la sécurité d'État. Notons au passage que le 7 septembre, jour de l'attentat, était aussi celui de l'anniversaire de celui qui, depuis 1955, avait fait main basse sur le parti à Sofia, Todor Jivkov, secrétaire général du comité central du PC bulgare, jusqu'à sa chute en 1989. À près de 50 ans, Markov, romancier, dramaturge, était devenu la plume de l'opposition bulgare en exil. 9 ans plus tôt, en 1969, il avait demandé à l'Italie l'asile politique avant de venir se fixer en Grande-Bretagne. Depuis lors, dans un anglais fraîchement appris mais d'autant plus précis, il dénonçait les travers du régime. Le dissident londonien était un ennemi déclaré du pouvoir communiste bulgare, brocardant Jivkov et ses sbires, les dépeignant comme inféodés jusqu'à l'absurde à l'URSS. Ces pièces, enfin traduites et montées, ont eu du succès. Ces tribunes ont marqué l'époque sur les ondes britanniques de la BBC, mais aussi sur celles américaines de Radio Free Europe, enfin sur celles de la Deutsche Welle, le service international de diffusion de l'Allemagne. Il a fait entendre une voix si dissidente que les Bulgares, par contumace, l'ont condamné à 6 ans et demi de prison. À moins que la DS n'ait secrètement choisi d'aller plus loin. Le samedi 9, la tension artérielle de Markov est au plus bas. Le dimanche, il crache du sang et meurt dans la matinée du lundi 11 septembre 1978. Or, à ce stade, personne ne saurait étayer la moindre hypothèse quant aux causes d'une mort si soudaine. Certes, on pratique une autopsie, mais sans pouvoir en tirer de conclusion définitive. Les choses auraient pu, auraient dû rester nébuleuses si, depuis l'autre rive de la Manche, un second réfugié bulgare ne s'était manifesté. Vladimir Kostov, 46 ans, réside alors à Paris depuis 4 ans. Un temps correspondant de l'agence de presse bulgare, il a obtenu de la France l'asile politique en 1977. Un acte de défiance au regard de Sofia, une trahison selon ses camarades du parti. Or, moins de 3 semaines avant la mort de Markov, le 26 août 1978, Vladimir était avec sa femme et ses enfants dans un escalier mécanique du métro sur les Champs-Élysées quand il a ressenti au niveau des omoplates une douleur virulente. Un homme l'a aussitôt dépassé d'un pas vif, il portait un sac sous le bras. Le lendemain, le réfugié se plaint de sa brûlure dans le dos. Fiévreux, il décide alors de se rendre aux urgences où un interne n'attribue son malaise qu'à une piqûre de guêpe. Lui n'en croit rien et redoute un coup des services secrets bulgares. Force est cependant d'admettre que son état s'améliore très vite. Le plus simple serait peut-être de tourner la page. C'est en apprenant par les journaux, 15 jours plus tard, le sort fait à son compatriote Markov à Londres, que Kostov établit des rapprochements. Le coup furtif et douloureux porté dans la rue par un passant pressé, la boursouflure, la fièvre, Vladimir s'en convainc, le dissident londonien et lui ont certainement été victimes de la déesse bulgare opérant de façon similaire avec des résultats différents, heureusement pour lui. Il alerte la police judiciaire qui, de son côté, se met en rapport avec Scotland Yard, les Britanniques prennent l'affaire au sérieux et dépêchent illico deux agents sur le continent. Sous contrôle de plusieurs services occidentaux, un chirurgien procède dans une maison discrète à l'inspection minutieuse du dos de Kostov, jusqu'à en extraire une minuscule bille creuse, de la taille d'une tête d'épingle et qui se révélera d'un alliage de platine et d'iridium. Or, le minuscule projectile porte d'indiscutables traces de poison. Et quel poison ? De la ricine. D'infimes perforations ont été pratiquées dans la bille, obturées à l'origine par un mélange cireux censé se dissoudre à la température du corps. Ainsi, les policiers ont-ils découvert l'instrument pervers d'un empoisonnement à retardement. Ordre est dès lors donné par les autorités britanniques d'exhumer le corps de Georgi Markov afin d'y pratiquer une seconde autopsie. Les médecins légistes retirent alors de la cuisse une petite bille identique à celle extraite du dos de Kostov. Preuve sera faite post-mortem d'un empoisonnement à la ricine. Comment la bille est-elle entrée dans les chairs du dissident bulgare ? En recoupant les éléments dont il dispose, les enquêteurs penchent pour l'utilisation d'un pistolet à air comprimé, dissimulé, imagine-t-il, dans l'embout du parapluie qu'avait fait tomber, selon Markov, le passant à l'accent étranger. Ainsi, l'empoisonnement ne se serait pas fait par contact avec le pépin, mais par le truchement d'un coup de feu discret. À l'époque, le procédé du crime est sciemment divulgué. Il frappe l'opinion et, en France notamment, marque les esprits. À l'automne 1980, sortira même une comédie de Gérard Houry, façonnée sur mesure pour Pierre Richard, Le coup du parapluie. Il y est question d'un assassinat devant être commis avec l'embout empoisonné d'un parapluie. À l'évidence, un scénario inspiré, quoique librement, des affaires Markov et Kostov. C'est dire l'immense retentissement public de l'affaire du parapluie bulgare. Durant des années, une brigade de Scotland Yard va se démener pour tenter d'élucider l'affaire, sans grand succès. Il aura fallu attendre l'effondrement du bloc soviétique pour que l'enquête soit menée en Bulgarie de façon plus efficace. Aussi savons-nous aujourd'hui à peu près comment la cible Georgi Markov, alias Vagabond, a été désigné par le chef du renseignement bulgare en personne, Vladimir Todorov, puis repéré et atteinte par un certain agent Piccadilly, sans doute un Danois d'origine italienne, Francesco Gulino. Bien des années plus tard, un journaliste allemand retrouvera ce Gulino quelque part en Autriche, et lorsqu'il lui demandera devant la caméra s'il s'est trouvé à Londres au moment des faits, ce dernier répondra de manière laconique « C'est possible ». Précisons que Kostov, de son côté, quoique soumis au même traitement que son compatriote, n'a jamais vu de parapluie dans l'escalator fatidique. Ce détail lui aurait-il échappé, à moins que dans son cas, le mini-canon à air comprimé n'ait été dissimulé dans un autre accessoire, peut-être le sac porté par le passant pressé. Du reste, le fait que lui a survécu à l'empoisonnement pose bien des questions. Fonctionnement imparfait du retardateur chimique, insertion de la bille dans des tissus moins exposés, résistance au poison. Le 26 août à Paris, les températures étant fraîches pour la saison, Vladimir s'était vêtu plutôt chaudement, assez peut-être pour amortir l'impact et diminuer ses conséquences. Ce qui est certain, c'est que l'opération menée par la Darzavna Sigurnost ne s'est ébruitée que parce qu'elle a échoué. Si Kostov était mort empoisonné, les deux attentats seraient passés pour des morts mystérieuses à défaut d'être naturelles. Comment ne pas supputer dès lors qu'un procédé aussi discret, aussi raffiné si l'on peut dire, est servi à d'autres reprises sans que personne jamais ne s'en soit douté. C'est d'autant plus plausible que le procédé appartenait au tristement célèbre KGB. Si l'on en croit Vladimir Fedorovski dans son roman de l'espionnage, ce sont bel et bien les Soviétiques qui avaient caché le petit canon à air comprimé dans les embouts d'un lot de parapluies américains achetés du reste à Washington. Le renseignement bulgare n'avait fait qu'emprunter son jouet au grand frère.